Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Et nous sommes très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui, à savoir de renouer avec des enregistrements dans les studios de RLP après une assez longue pause compte tenu de l'épidémie et de tout ce qu'elle nous a imposé. Donc aujourd'hui, mes invités vont nous parler des fonds documentaires de la Société historique et archéologique du Périgord. Pour ce faire, j'ai invité Jeannine Rousset et Pierre Besse qui vont se présenter.
Alors, je suis Jeannine Rousset. J'ai été dans le passé institutrice, professeure français histoire en collège, puis principale adjointe de collège. Et j'ai terminé ma carrière à l'Orgathe à Périgueux. Je suis à la Société historique et archéologique du Périgord depuis les années 75 à peu près. Voilà, et je m'intéresse passionnément à son fonctionnement et plus particulièrement à la bibliothèque.
Oui, Pierre Besse, j'étais professeur de mathématiques et formateur en informatique. Le travail que je fais à la CHAP me permet de rester dans le bain pour la création de sites. J'essaie de rester au top niveau, si je peux, ou moins au niveau qui est le mien. Et je m'intéresse donc à la numérisation et à la création de sites.
Voilà, encore merci à vous deux d'avoir accepté cet enregistrement. Je vous ai choisi parce que, pour parodier le titre d'une de nos publications récentes et mensuelles, vous êtes la mémoire vivante des collections de la CHAP. Donc, vous étiez les plus à même de nous en parler. Pour présenter les choses, dites-nous tout d'abord à quoi sont dédiées ces collections. Quel est le thème central?
Alors, le thème central, c'est avant tout l'histoire du Périgord, puis de sa région et enfin, d'une façon générale, par les différents auteurs qui ont publié de très nombreux ouvrages, l'histoire de la France.
Et pour ce que j'en sais, les collections de la CHAP sont énormes, puisque on a à peu près 19 000 notices enregistrées sur l'ordinateur,
oui,
qui correspondent environ à, en gros, 25 000 ouvrages écrits, et le tout étant stocké dans notre nouvelle bibliothèque que nous avons intégrée il y a maintenant un peu plus d'un an, 18 mois, et qui représente quand même 850 mètres linéaires de classement. Voilà. Alors maintenant, de quoi se composent ces fonds?
Alors, les fonds sont très variés, bien sûr. Nous avons des documents concernant les journaux, notamment l'Écho de Vézone, qui est très apprécié depuis 1831 jusqu'à 1889, et d'autres. Hein. Puis des livres très nombreux, mais nous avons des collections dans notre photothèque, de la numismatique, des thèses, des cartes, des reproductions en très grand nombre, des fonds importants, cartes postales aussi, et des placards qui sont de la Révolution, et quelques-uns même avant. Nous avons aussi quantité d'albums, des dessins, des croquis, des caricatures, et même nous avons des tableaux qui nous ont été offerts, notamment ceux de M. Linfort, Riboulet-Rebière. Mais ce qui est important et rare, nous avons des collections d'albums. Et il faut le souligner aussi, des ouvrages que l'on ne trouve que chez nous. Voilà, et dont nous sommes très très fiers, bien sûr.
C'est ce qui fait effectivement toute la richesse de ces collections. Et ces collections, je disais qu'il y a des notices numérisées, Pierre.
Bien oui, c'est bien d'avoir les collections, mais il faut aussi les faire connaître et les mettre à disposition. Donc, depuis quelques années, nous avons entrepris de mettre le catalogue à disposition sur Internet. Ça a été très progressif. Au début, c'était un simple recueil des informations sur un tableur. Et après, on est passé, on a eu une version sur Internet provisoire avant d'avoir un vrai catalogue des bibliothèques conseillé par M. Barbiche de la médiathèque. Et ce qui fait que nous avons réussi à tout transférer, toutes les notices sur ce catalogue. Et donc, maintenant, des chercheurs du monde entier peuvent accéder à ce catalogue et trouver parfois des petites merveilles.
Alors, pour ce qui concerne les documents écrits, Janine, pouvez-vous nous dire, entrer un petit peu dans le détail, nous dire ce que ça comprend et comment ils sont répertoriés, comment ils sont classés ?
Alors, nous avons choisi de les répertorier par thème pour faciliter les recherches des gens qui viennent à la société. C'est ainsi que nous classons de la préhistoire à l'histoire actuelle. Alors, préhistoire, l'antiquité, l'archéologie, la religion, l'histoire des grands moments de notre pays, les auteurs périgourdins et autres qui ont écrit sur le Périgord, bien sûr. Et nous avons un ensemble très, très important de monographies sur toutes nos communes. Puis nous avons aussi des généalogies. Et puis nous avons un thème important aussi sur l'agriculture, mais il ne faut pas négliger non plus nos documents sur le commerce, l'industrie, par rapport notamment aux rivières avec les moulins, les forges. Nous avons aussi un carton assez exceptionnel sur les publicités. Les affiches, les publicités, une collection d'anciens almanachs aussi. Et puis, nous avons le thème de l'instruction, des arts, poésie, musique. Nous avons aussi sur l'hôtellerie et les menus. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Périgord. Et à part, qui ne sont pas comptés dans les 19 000 recensés, nous avons d'importantes collections de bulletins et de revues. Dès le départ, c'était marqué dans les statuts que nous devions conserver les bulletins. Les nôtres, bien sûr, et toutes nos collections que nous faisions avec les colloques, etc. Mais aussi, nous avons des abonnements particuliers, mais aussi des échanges avec non seulement les communes qui produisent des bulletins, mais aussi avec d'autres villes en France, par exemple Pau, aussi bien le Finistère, Lyon, Aix, la Picardie, etc. Mais aussi des pays étrangers comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne et même le Canada. Sans oublier, bien sûr, notre Nouvelle-Calédonie.
Voilà, donc toute une collection de bulletins de sociétés historiques voilà. Très diverses.
Et très importantes et souvent qui remontent au début du 19e siècle, oui. Vers les années 1830 et quelques-unes.
Alors, on parlait de l'agriculture et on parlait de l'ancienneté. Pour ceux qui auraient suivi la première émission de la Chape sur Irlesplay, on présentait cette société qui remonte à 1874, mais la société historique a été la continuité de la société d'agriculture du Périgord, qui ne s'intéressait pas qu'à l'agriculture, mais qui traitait également d'histoire, et qui, elle, existait depuis, les années 1820-1830.
Oui.
Et nous avons toute la collection des publications de cette société d'agriculture du Périgord. Et Pierre est en train d'en extraire actuellement les articles qui concernent plus spécifiquement l'histoire.
Tout à fait. Et même, pardon, j'ai même oublié que nous avions un herbier très important et très rare.
Nous avons un herbier, effectivement, qui tient de la place dans les étagères. Quelle est l'origine des documents ? En dehors des abonnements
Des échanges, voilà. Eh bien, nous avons des dons, des legs, qui nous ont été faits depuis le début, si je puis dire, et qui continuent encore aujourd'hui. Je ne vais en citer que quelques-uns. On a un fonds Hardy, Saint-Martin, Ponceau, avec les plans, le marquis de Fayolle, l'association Roca, le père Pomarède, avec Brugière et sa collection de cartes postales. Et récemment, le fonds venant du docteur Blondin, plus spécifiquement sur nos communes. Et puis, le dernier fonds, c'est celui de Serge Avriot, qui est un spéléologue bien connu, spécialiste pour la France, puisqu'il était président, des cluseaux, des grottes, des fosses, avec les graffitis notamment, tout cela qui nous intéresse.
Et voilà. Des souterrains. Mais pour l'instant, ce fonds n'est pas encore classé, donc presque. On peut dire qu'il reste encore souterrain.
Presque, presque.
Voilà. Pierre va nous parler de la partie numérisée peut-être et du site de la chape et de ce qu'on peut trouver
oui,
dessus.
Oui, au départ, les premières numérisations concernaient des documents qui étaient fréquemment consultés et qui étaient relativement fragiles, entre autres les notices de l'abbé Brugière, qui représentent environ 5000 pages manuscrites, recopiées d'une petite écriture assez difficile à déchiffrer. Et la numérisation a permis, ne serait-ce que par les agrandissements, que des gens puissent les déchiffrer. C'est vraiment le fonds qui est le plus consulté, le plus téléchargé. Et puis, petit à petit, parce que la numérisation, c'est un travail de longue haleine, de longues séances de photos, le deuxième fonds numérisé, ça a été l'ensemble des cartes postales anciennes léguées par le père Pomarède. C'est quand même environ 16 000 cartes postales qui concernent tout le département, et qui sont accessibles dans une base de données classée par catégorie et par commune. Puis ont suivi d'autres numérisations, les bulletins, puisque les bulletins au début avaient été numérisés, les plus anciens d'entre eux avaient été numérisés par la BNF, mais qui s'étaient arrêtés en 1937. Donc nous avons pris le relais et actuellement la totalité des bulletins sont numérisés et sont mis en ligne jusqu'en 2015. Les plus récents étant réservés à la vente du bulletin, la vente papier.
Et à l'abonnement, bien entendu.
Et à l'abonnement, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Nous verrons après comment accéder à tous ces documents.
Oui.
Janine voulait...
Oui, je voulais ajouter que si notre bibliothèque continue à s'enrichir, c'est grâce aussi à nos collègues qui continuent à nous apporter parfois un ouvrage, deux ouvrages, une publication. Et ceci, bien sûr, c'est très important parce que nous faisons des achats, mais nos finances sont quand même très, très limitées. Donc, nous leur en savons gré infiniment.
Et tout ce qui nous est donné et qui vient enrichir le fonds va permettre aux gens qui écrivent dans le bulletin d'avoir la documentation pour leurs articles, va nous permettre aussi d'organiser des colloques, va nous permettre aussi parfois de publier des ouvrages comme celui qui est sorti récemment, par exemple, sur les peintures murales en Périgord, dont une partie de la documentation vient des fonds de la chape.
Que Dio prenda la terre à ses fidèles amants. de tutto che tu vuoi. Che Dio renda la terra
a sus fidels amants,
a sus fidels amants.
Voilà, nous avons balayé le contenu de nos fonds documentaires. Nous allons maintenant voir un peu comment ça fonctionne et quel est l'objet de tout ça pour les utilisateurs. Alors, tout d'abord, la bibliothèque. Je pense qu'il faut préciser d'entrée de jeu que ce n'est pas une bibliothèque de prêt.
Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas une bibliothèque de prêt. Elle est ouverte, bien sûr, à ses membres, aux étudiants, aux membres, aux associations, notamment nous sommes en relation avec de très nombreuses associations, et elle est ouverte donc le vendredi après-midi de 14h à 17h30. Voilà. Mais parfois, pour rendre service aux étudiants ou à des personnes qui ont des rendez-vous aux archives, par exemple, et qui viennent de très très loin, eh bien, nous sommes à la disposition, bien sûr, de ces chercheurs.
En effet, donc c'est ouvert aux chercheurs et c'est un complément avec d'autres sources de recherche qu'ils peuvent avoir à Périgueux, les archives départementales, la médiathèque FANLAC essentiellement. Voilà. Et donc, bon, il faut avoir une certaine souplesse pour permettre aux chercheurs de regrouper leurs recherches quand ils se déplacent. Et donc, lorsque le chercheur s'est mis en relation avec nous, il va être accueilli et que ça se passe comment ?
Bien, nous sommes tout un groupe. D'abord, nous avons une secrétaire qui a trois quarts temps à la société historique. Donc, les chercheurs peuvent l'appeler, prendre rendez-vous, etc. Et là, nous sommes un petit groupe qui travaillons à la Société historique et archéologique et nous sommes à la disposition, nous mettons à la disposition des gens qui viennent nous voir. Voilà.
Donc le chercheur vient, nous expose le thème de sa recherche et nous sommes à même de lui dire ce dont nous disposons. Effectivement, il n'y a pas le temps d'attente qu'on peut avoir quelquefois. Il faut dire aussi qu'on s'arrange pour ne pas avoir un trop grand nombre de chercheurs en même temps.
Oui.
Et que ça permet une plus grande fluidité des choses.
Oui, oui, oui. Et s'il a spécifié avant notre secrétaire le but de ses recherches, eh bien, nous nous arrangeons pour déjà préparer les documents de manière à ce qu'il puisse commencer ses recherches tout de suite, surtout s'il vient de loin.
Oui.
Il ou elle, pardon.
Et le catalogue en ligne a pu lui permettre de préparer les recherches.
D'accord.
Donc
voilà.
Déjà, ils ont une idée de ce qu'ils vont pouvoir trouver.
Donc, en effet, comment ça se passe sur le net pour la personne qui découvre que la chape est une source de documentation riche ?
Alors, le site principal à l'adresse chape.fr est une tour de contrôle qui envoie vers différentes parties. La partie principale, donc le site lui-même, chape.fr, outre la vie de la société, offre aussi des possibilités, des liens vers des documents. Donc c'est une des rubriques le plus visibles en haut de la page. qui donne accès, par exemple, aux notices brugières dont je parlais, qui donne accès aussi aux cartes postales, aux éléments divers, aux gravures numérisées, à l'iconothèque. Et puis, un lien peut renvoyer vers le catalogue, qui est un outil, cette fois-ci, de recherche, où on peut chercher soit en tenant compte des rubriques, agriculture, préhistoire, etc., mais pour une recherche plus fine, on a un formulaire de recherche qui permettra de donner accès à l'ensemble des 18 000 notices. Il n'est pas question de les présenter à la queue leu-leu.
Et donner accès aussi à l'ensemble des bulletins de la chape.
Donc, dans la bibliothèque sont répertoriés aussi tous les bulletins de la chape, bien sûr. Et un autre site dont on parlera peut-être à la fin, plus récent, qui donne accès directement à n'importe quel article paru dans le bulletin de la chape depuis le début. C'est-à-dire un ensemble de plus de 4000 articles accessibles en 3 clics, en texte intégral.
Alors effectivement, ça c'est très intéressant, non seulement pour le chercheur, mais ça peut être intéressant aussi pour le curieux, pour le périgourdin qui s'intéresse à son pays et à son histoire, pour l'ancien périgourdin qui vit ailleurs, qui a un peu de nostalgie et qui s'intéresse à l'histoire du Périgord, ou même pour le profane, il peut avoir accès. Alors, donc, peut-être
oui,
tu
parce
vas
que
nous
le chercheur avait déjà accès à l'index analytique des bulletins, mais c'est un outil de spécialiste qui s'adresse aux gens qui savent ce qu'ils cherchent et qui auront une réponse détaillée, mais ça ne convient pas du tout aux curieux qui, au départ, ne sait pas exactement ce qu'il va voir, mais qui a envie de feuilleter, finalement. Donc, on a créé un nouvel outil qu'on appelle Wikichap, qui est bâti sur le même modèle que Wikipédia. Donc ça sera un site collaboratif, mais dans un premier temps, on la nourrit avec des liens vers donc, chacun des 4000 articles numérisés, soit à la BNF, soit chez nous. Et on l'enrichit actuellement avec quelques analyses de livres, et puis avec l'analyse des annales agricoles, c'est-à-dire l'ancêtre de la chape. Et là encore, l'idée est la même, c'est-à-dire donner le titre de l'article et d'un simple clic, on arrive à cet article-là. Donc le curieux qui se laisse guider comme ça par la page peut passer d'un article sur la préhistoire à un article contemporain au fil de ses recherches.
Alors on va peut-être essayer de donner des exemples concrets.
Oui. Parce que, par exemple, pour aller dans le même sens que Pierre, nous avons la visite, bien sûr, d'historiens, de spécialistes, mais aussi, bien souvent, de personnes qui veulent subitement se dire « Ah, et mon village, de quelle époque il date? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et l'église? Et le château ?» Bon, ben, ils peuvent venir, et puis, grâce au site, on les aidera, on les aiguillera, on cherchera des documents, et ils pourront se satisfaire.
Et même ensuite, à la bibliothèque même, puisqu'on a des notices par commune, classées par commune, ils peuvent trouver des détails sur l'endroit où ils vivent.
Voilà, tout à fait.
Donc, on pourrait, avant de terminer, faire un peu une... donner un exemple vivant. Je m'intéresse par exemple au père Pomarède. On a cité son nom plusieurs fois. Je ne sais pas du tout qui c'est. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Je crois que dans un premier temps, on va aller sur le site. Là, il y a des outils de recherche dans toutes les parties. Mais déjà sur la page d'accueil, si on tape le nom Pomarède, on va avoir une série d'articles où son nom est cité, soit comme auteur, soit comme simplement comme citation. Si on va dans le catalogue de la bibliothèque, on va trouver une quantité de documents, puisqu'il a beaucoup produit. Je pense que le père Pomarède, dans le catalogue, il apparaît plus de 80 fois. Il apparaît dans la bibliothèque numérique, où on trouvera son portrait. Là aussi, il y a un moteur de recherche. Il apparaît, bien sûr, dans les bulletins de la chape. Pendant des dizaines d'années, il a participé, il a produit. À chaque fois, quelle que soit la partie du site qu'on regarde, il y aura toujours un outil de recherche. On lance la recherche et on obtient une masse de résultats.
Voilà. Alors, je pense que je ne dirai pas qui était le père Pomarède. Nous ne le dirons pas aujourd'hui. Ceux qui ne le connaissent pas et qui ont entendu cette émission iront voir sur le site chape.fr. Et sur ce site, ils trouveront également toutes les informations pratiques. On leur rappellera les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Ils auront également le numéro de téléphone pour joindre la secrétaire pour préparer une recherche et éventuellement aussi s'informer pour savoir comment adhérer à la Société historique et archéologique du Périgord, parce que quand on commence à tomber dedans, c'est un peu comme la potion magique, on ne peut plus s'en passer. Il y a une forme d'addiction, alors ça n'a pas été décrit par les médecins, mais je peux vous dire qu'il existe une addiction à la chape, et surtout que quand on tombe sur un contenu, eh bien, c'est comme une pelote de laine, on se met à tirer sur le fil et on est parti pour un certain temps.
Voilà, c'est vraiment un centre de ressources pour tous ceux qui s'intéressent, qui cherchent à faire des monographies communales ou des recherches sur leur village.
Et la préhistoire,
quand même, en Dordogne.
Nous sommes très, très riches, bien sûr, avec Brigitte et Gilles Deluc.
C'est ça. Et un fonds documentaire qui tient quand même une place conséquente dans notre bibliothèque. Bien. Janine, Pierre, je vous remercie grandement d'avoir participé à cette émission et j'espère que nous aurons donné le virus de l'histoire du Périgord à nos auditeurs.